Good Morning Business, l'expert.
Notre expert ce matin, c'est Jérôme Dédéian, président de Mon Partenaire Patrimoine. Bonjour.
Bonjour Christophe.
Et avec Nicolas Dose, on va quand même dire un mot de ce qui est en train de se passer en ce moment, la nomination du nouveau gouvernement. Alors, c'est distillé petite dose par petite dose. Bruno Le Maire a annoncé lui-même tout à l'heure qu'il était confirmé à Bercy. Et puis, on a des petites indiscrétions, des petites fuites. Par exemple, on sait que Olivier Véran va devenir le porte-parole du gouvernement, que le médecin urgentiste François Braun va être nommé ministre de la Santé, ou encore le retour de Marlène Schiappa au gouvernement en charge de l'économie sociale et solidaire. Plus d'infos, évidemment, dans quelques dizaines de minutes sur BFM Business. C'est aussi la semaine du pouvoir d'achat. Le texte du projet de loi va être présenté sans doute jeudi ou vendredi en Conseil des ministres, et alors après le marathon parlementaire, Nicolas.
C'est très mal engagé cette histoire, et c'est quand même le premier test de la nouvelle donne parlementaire. En fait, vous prenez ce que propose le gouvernement et vous prenez tous les chiffons rouges des forces d'opposition.
C'est ça.
Alors chez LR, on veut que des choses inacceptables pour Bruno Le Maire. On veut un litre à 1,50€ pour le carburant en baissant les taxes, on veut baisser les cotisations sociales des salariés, baisser la CSG des retraités, n'y comptez pas, a dit Bercy. Le SMIC à 1500, c'est le nouveau chiffon rouge du PS. Attention, pas le SMIC à 1500, prime d'activité comprise. Hors prime d'activité, le vrai SMIC. Voilà, idem chez LFI, pareil. Mais LFI voudrait en même temps bloquer les prix des produits de première nécessité, éventuellement rattraper les années de gel du point d'indice des fonctionnaires. Si vous prenez le Rassemblement National, ils diront non à tout tant qu'on leur met pas une TVA à 5,5 sur les carburants. C'est quand même très mal engagé. Et puis ça entretient cette idée que le pouvoir d'achat va forcément venir du gouvernement, forcément venir du Parlement. Alors c'est aussi une démarche. Le pouvoir d'achat qui peut être une démarche individuelle. Il y a des instruments disponibles dans notre pays, notamment qui ont été validés par la loi PACTE, qui permettent d'imaginer son pouvoir d'achat quelquefois un peu autrement que par le biais de la loi et du gouvernement.
Et d'imaginer son pouvoir d'achat aussi en pensant au futur et à l'avenir.
Exactement,
c'est ce que font les Français en épargnant. Et Jérôme Dédéian, ce matin, vous avez des chiffres intéressants sur le PER, le nouveau mécanisme de plan d'épargne retraite, qui fonctionne extrêmement bien.
Exactement. Et comme vous le savez, dans le volet de la loi pouvoir d'achat qui arrive là en discussion au Parlement, il va y avoir un gros enjeu partage du profit, participation, intéressement, ouais. Renforcement de tous ces dispositifs, probable modification de la formule de la participation aux bénéfices, si on y arrive, cette fois-ci. Et en fait, ces flux de partage du profit servent à alimenter le PER, et le PER est un énorme succès. On a eu les statistiques, les dernières statistiques de Bercy, et en fait, il est en avance, quasiment, il est à deux fois les objectifs fixés par Bercy, initialement, à son lancement en octobre 2019. Il y a aujourd'hui 5 millions de Français qui détiennent un PER, l'objectif était de 3 millions, et il y a 60 milliards d'euros d'encours d'épargne accumulés, dont une grande partie qui vient des dispositifs de pouvoir d'achat, partage du profit des entreprises, alors l'objectif était à 30 milliards, c'est le double. Donc c'est un vrai, vrai succès.
Il faut rappeler que c'est très intéressant parce que ça permet d'abord d'épargner pour sa retraite, ça permet de capitaliser, d'avoir les revenus des titres dans lesquels on investit, et puis aussi d'avoir un avantage fiscal très, très important.
Exactement, en fait, le succès de ce produit, c'est parce qu'il est bien né, tout simplement, il a été bien conçu. Il y a cet avantage fiscal à l'entrée qui fait que finalement l'État abonde de ma tranche marginale d'imposition quand je mets des sous pour ma retraite.
Parce que je mets des sous, c'est enlever mes revenus.
Exact.
En revanche, je paierai les impôts dans 10 ou 20 ans ou dans 30 ans.
Oui, mais d'abord, ma tranche marginale d'imposition quand je serai retraité sera inférieure à celle que je paye aujourd'hui, donc j'ai un levier fiscal.
Sauf si la France Insoumise est au gouvernement d'ici là.
Voilà. Et le deuxième, alors on sera tous morts. Et la deuxième chose, c'est comme ça capitalise en brut, les intérêts composés, c'est des mathématiques, font que j'ai des intérêts sur le brut et pas sur le net. Et donc à la fin, même net de fiscalité, dans 9 cas sur 10, ça me rend plus que si j'avais épargné sur mon contrat d'assurance vie. Et puis c'est un seul produit pour toute ma vie professionnelle et personnelle que j'alimente avec de mon épargne à moi et l'épargne qui vient de mon entreprise, on en parle, d'où le volet pouvoir d'achat de la loi qui parle au Parlement. Transférable, transparence des frais depuis la réforme de leur affichage, etc. Donc un produit qui est extrêmement bien né. Alors, est-ce que ça va suffire, le PER tel qu'il commence à décoller de façon fulgurante? La réponse est évidemment non. En fait, on a une statistique assez simple. Pour être à côté de ce que donnent les pensions des régimes par répartition, il faut de l'épargne retraite, et on compte l'épargne spécifique à la retraite, c'est le PER en France, c'est les fonds de pension dans les autres pays, et aussi l'épargne accumulée sur d'autres dispositifs, assurance vie par exemple, qui ne sont pas spécifiquement destinés à la retraite, mais que les gens déclarent affectés à la retraite. En fait, en France, c'est 40% du PIB, si on fait la somme de tout ça. La moyenne des pays de l'OCDE, c'est 85% du PIB, donc on est encore loin du compte, il faut doper le PER.